Et bonjour, bonjour, ils sont là, vous les voyez, ils sont en forme, ils sont affûtés, ils sont prêts pour cette troisième rencontre de la Coupe du Monde de rugby. Bienvenue dans le Salon Tactique Rugby, évidemment, pour évoquer en long, en large et en travers ce match contre la Namibie, après la Nouvelle-Zélande, après l'Uruguay. Attention, les Namibiens, voilà l'équipe de France, la grande équipe de France avec ses stars, avec Antoine Dupont et les autres. Ça va faire mal demain ici à Marseille. Le casting, vous les voyez, ils sont en forme. Alexandre Bardot, qui a travaillé encore, qui est prêt, qui a fait son sac aussi pour venir demain à Marseille. Comment ça va, Alex?
Ça va très bien, bonjour à tous. Toi, Marseille, quoi de neuf?
Il a plu. On me dit toujours il fait beau dans le sud. Ben non, il fait pas beau toujours dans le sud. Non, c'est pas vrai. On
Risque
espère que
de
demain il
pluie
fera
demain soir
meilleur.
d'ailleurs.
Ah, monsieur est météorologue en plus, qui plus est. Bravo,
Je viens
Alexandre.
de regarder la météo pour préparer ça sérieusement
Merci.
quand même.
Un vrai professionnel qui va préparer son sac, quoi. Et au milieu de l'écran, vous le voyez, c'est Yannick Bru, le manager de l'Union Bordeaux-Bègles, qui a bossé sur l'UBB, qui a bossé sur le Salon Tactique et qui a eu la chance de rencontrer la Nouvelle-Zélande aujourd'hui. Ils ont été impressionnés par l'UBB aujourd'hui?
Pas plus que ça, je dirais. Après, ils entourent leur équipe d'un tel dispositif de sécurité et de mystère aussi, qui contraste un peu avec la Nouvelle-Zélande, honnêtement, que j'ai été habitué à côtoyer, c'est-à-dire ouvert à la discussion, à l'échange, au partage. On sent une Nouvelle-Zélande pas très sereine, un peu stressée, qui est en mission aussi et qui va jouer un match très important pour elle contre l'Italie en fin de semaine. C'est pas la sérénité et la décontraction qui m'ont marqué le plus chez les Néo-Zélandais, alors que d'habitude ce sont plutôt des gars très mesurés dans les semaines d'entraînement. Bon, Et chez les
voilà.
box, puisque tu les as vus aussi.
Ouais, non, par contre les Bocs, franchement il y avait beaucoup plus de décontraction. Bon, ils jouaient la Roumanie aussi la semaine dernière, donc puis j'ai aussi croisé des gens que je connais bien et qui étaient tous au repos. Donc forcément, il n'y avait pas de stress. Mais Grant Williams, Jaden Hendrickse se sont joints au dîner et eux étaient impliqués sur la feuille de match face à la Roumanie. Non, par contre, les Bocs, on sent vraiment qu'il y a beaucoup d'expérience, il y a beaucoup de sérénité, beaucoup de détermination aussi et de joie en même temps parce qu'ils savent qu'ils vivent leur dernier moment ensemble pour certains. Donc, je les ai trouvés particulièrement relâchés et confiants.
Ils avaient bon
Bon, on verra
appétit.
quand on la fera. Ouais, ils doivent bien manger, non?
Ouais. Là, il y a eu cure de protéines. Franchement, ils ont dévalisé les stocks des restaurants argentins de Bordeaux. Bah, c'est vrai que sur la viande, il ne faut pas trop promettre au SUDAF.
Messieurs, trois thèmes pour l'émission du jour. D'abord, évidemment, ce match contre la Namibie avec les cadres, ce qu'il faut en attendre, à quoi va-t-il servir ce match, ce troisième match de Coupe du Monde, les lancements de jeu dont on parle beaucoup depuis le début de la compétition chez les Bleus. Est-ce qu'il y a peut-être des plans de jeu cachés? Est-ce que pour l'instant, les lancements de jeu sont à la hauteur de ce qu'on attendait? Et le troisième point, il y a deux retours importants dans cette équipe de France, dans ce 15 de départ, outre Jonathan Danty au centre. Cyril Bailly, le gaucher du Stade toulousain, est de retour, lui qui n'a plus joué depuis le 12 août dernier contre l'Écosse à Saint-Étienne. Ça aussi, ce sera important. Et la première question, tout simplement, Yannick, Alex, on va commencer par Yannick quand même, c'est important d'abord de faire parler au consultant. Yannick, à quoi va servir ce match et à quoi tu vas t'attendre demain? À quoi peut-on s'attendre?
Écoute, tu l'as un peu dit dans ton introduction. D'abord, il va servir à remettre en route des joueurs très importants de l'équipe de France, qui amènent de la puissance et des atouts dans le jeu offensif, mais aussi défensif de l'équipe de France, donc Joe Danty et Cyril Bailly. Après, déjà, je vois le premier intérêt là. Le deuxième, pour moi, c'est recréer un climat de confiance autour de l'équipe de France. Je ne dis pas qu'elle a perdu sa confiance, mais on a senti des petites brouilles sur les complicités offensives, les complicités défensives. Bon, les médias jouent leur rôle aussi là-dedans. Et donc, c'est très français de générer aussi un peu de stress dans un scénario qui, pour l'instant, est quand même très favorable. Mais chacun fait son métier. Et l'équipe de France elle-même, on l'a vu avec Laurent Labitte, certaines déclarations, on voit bien qu'il n'y a pas une satisfaction complète sur les partitions livrées jusqu'à maintenant, et notamment sur le plan offensif. Donc, je dirais remettre des joueurs dans le circuit, parce que ces joueurs-là auront besoin d'un ou deux matchs pour atteindre leur meilleur niveau. Recréer de la complicité, de la confiance, notamment sur le plan offensif, où il faut qu'on retrouve du lien contre une équipe namibienne qui a déjà pris 123 points, je crois, sur les deux premiers matchs, donc qui devrait approcher des 200 points encaissés normalement, si le scénario se passe comme prévu, vu qu'on a quand même aligné, même si j'aime pas ce mot, moi, hein, mais l'équipe qui est annoncée comme premium. Bon, ça ne veut pas dire qu'on a des voitures d'occasion derrière, hein, mais bon, on l'a appelé ce 15 comme ça, premium. Voilà, donc c'est l'équipe numéro 1 du 15 de France qui se présente, donc ça devrait fonctionner.
Alex, c'est un match pour retrouver de la confiance aussi, peut-être plus de sérénité.
La confiance, en fait, j'ai préparé pour le journal de demain un sujet sur l'aspect offensif, l'attaque, parce que c'est quand même là-dedans qu'on va attendre l'équipe de France demain, a priori. La Namibie n'est pas une équipe offensive et la France devrait la dominer, devrait avoir le ballon. Et du coup, j'ai regardé un peu tout ce qui s'était dit depuis un mois et en fait, j'ai retrouvé une phrase d'Antoine Dupont avant le match contre l'Australie où, grosso modo, il disait il faut qu'on retrouve des certitudes offensives. Et puis, il se trouve que Mathieu Jalibert, qui était invité qui était en conférence de presse lundi dernier, a dit grosso modo la même chose. Donc voilà, c'est un chantier en cours. On le sait en partie pourquoi. C'est en partie lié au fait que l'équipe de France est en train de recréer une identité entre possession, dépossession. Il y a un aspect un peu, elle est un peu hybride, on va dire. Elle fait beaucoup de dépossession contre les All Blacks. Elle avait fait à peu près totalement l'inverse contre le Pays de Galles lors du dernier tournoi ou contre l'Écosse lors de la préparation. Donc elle est en train de chercher la bonne carburation et je pense que ce match-là peut servir à ça, à être plus clair sur la stratégie, à être plus clair sur quand on choisit la possession, d'être meilleur dans cet aspect-là. J'ai préparé une petite phrase, je l'ai trouvée intéressante cette semaine. Il y a Mathieu Jalibert qui était en conférence de presse, comme je le disais. Il a dit ceci, je n'ai pas toute la réponse, mais surtout la partie en bleu. On a beaucoup travaillé le système offensif pour être capable de tenir le ballon plus longtemps, mais aussi, on sait aussi que le jeu de dépossession est une arme forte pour notre équipe. On n'a pas vraiment de questions à se poser. Le but, c'est d'avoir différentes armes pour le match et de s'adapter à ce que proposent les adversaires, mais aussi les arbitres. On sent bien donc cette recherche d'un visage adaptatif, capable d'être dans la possession et dans la dépossession. Pour l'instant, l'équipe de France est très forte dans la dépossession, moins dans la possession, et je pense qu'elle a besoin d'acquérir davantage de certitude sur cet aspect-là, si elle veut être l'équipe hybride qu'elle semble vouloir être. On t'entend pas, Jeff.
Excusez-moi, j'ai fait une Alexandre Bardot, j'avais coupé mon micro parce que voilà. Et je disais, c'est le match idéal pour ça, non? Pour tout ce que tu viens de dire, contre une équipe qui est 21e nation mondiale, qui a problème défensif, c'est peut-être pour justement relancer peut-être certains plans de jeu qu'ils n'avaient pas fait ou mieux les faire.
On avait un peu dit ça avant l'Uruguay, alors ce n'était pas la même équipe. Ni l'Uruguay est sans doute une équipe meilleure que la Namibie, c'est même sûr. Et ce n'est pas la même équipe de France non plus. En tout cas, après l'Uruguay, il y avait une forme de déception parce qu'on avait vu que l'équipe de France avait, on l'avait dit, le cul entre deux chaises et qu'elle avait manqué de précision dans ses choix, dans ses courses, dans ses passes parfois, dans ses timings. Bon, là, a priori, c'est une équipe qui a averti, c'est une meilleure équipe. C'est une équipe qui a averti, qui a vu que le match de l'Uruguay n'avait pas été facile et qui a eu une forme de, je pense, envie d'avancer. Oui, c'est un adversaire, on va en parler un peu après, mais c'est un adversaire qui va donner des marges de manœuvre. Alors, il ne faudra pas trop s'y habituer non plus, parce que il y aura moins de marges de manœuvre ensuite, mais voilà, au moins pour prendre de la confiance, s'installer dans un système, voilà, ce sera plus confortable.
Yannick, une question, toi qui as fait partie d'un staff de l'équipe de France, c'est toujours des arbitrages un peu compliqués de savoir si Faut aligner les cadres dès maintenant, plus tard, le temps de jeu, la répartition du temps de jeu. Ça, quand on fait partie d'un encadrement des Bleus, c'est un vrai casse-tête.
Un casse-tête, non, mais c'est vrai que ça peut paraître surprenant de voir aligner l'équipe premium ensemble contre la Namibie, alors que on va avoir un match essentiel contre l'Italie la semaine prochaine et qui va précéder le quart, la demi et la finale. Donc
C'est 15
potentiellement,
jours plus tard, Yannick, hein. On rappelle que c'est 6 octobre, donc c'est peut-être pour ça aussi.
Ouais, mais je sais pas si, pour être honnête avec vous, si dans les plans il était prévu d'aligner l'équipe type face à la Namibie. Voilà, donc c'est le. Après, c'est pas ce qui peut. Voilà, on a certains joueurs qui reviennent de blessures. On a voilà, Julien Marchand. On sait que c'est notre option numéro un au talon. Il n'est pas encore complètement rétabli pour la fin de la compétition. On aligne Movaka. Bon, voilà, il y a certains joueurs qui auraient peut-être pu être sur le banc et avoir 20 minutes de temps de jeu en fin de match. Bon, le choix a été fait par le staff de mettre les joueurs ensemble. D'après ce que j'ai lu ou compris, c'était une option qui a été déterminée très rapidement, bien avant la mésaventure. La contre-performance face à l'Uruguay. Donc, apparemment, le staff de l'équipe est dans sa planification, n'a rien bouleversé. Donc, je ne pense pas que ce soit un casse-tête pour eux. Personnellement, je dis juste que peut-être que une équipe panachée aurait permis encore d'entretenir la motivation de certains, se parer éventuellement de certaines blessures. Moi, ça me surprend un peu qu'on ait sorti l'Armada contre la Namibie. J'ai plus l'impression qu'on a besoin de retrouver de la sérénité, de la confiance dans notre jeu offensif, comme l'a dit Alex avant, et que effectivement, il y aura des temps de récupération, comme tu l'as dit, Jeff, après, et qu'on va croiser les doigts pour qu'il n'y ait pas de petits bobos.
Alex, sur quel point il faut insister, sur quel point il faut peut-être se rassurer ou il faut vraiment se servir de ce match?
On va revenir là-dessus tout à l'heure, mais je pense que les lancements de jeu, ça a été dit par Laurent Labitte en conférence de presse. Je pense aussi qu'on a besoin de retrouver de la fluidité. La fluidité, ça passe par plein de choses, mais c'est des timings de course, des timings de passe, c'est des angles de course, c'est voilà, tout ce qui permet à un moment de déplacer le ballon correctement et de l'amener dans les bonnes zones. Pour l'instant, ça en a manqué un peu. Il y a eu des bonnes séquences, mais voilà. Puis il y a toujours, donc moi je suis toujours un peu sur cette idée. Je trouve que c'est un peu un des grands enjeux de la Coupe du Monde pour finalement à peu près toutes les équipes. C'est la question de quel style va gagner. Et donc je pense que l'équipe de France elle doit savoir quand utiliser des possessions, quand utiliser la possession et mieux utiliser ses possessions. Et je pense que le match de la Namibie peut servir à ça. En préparant l'émission, j'ai retrouvé un chiffre qu'on a donné dans le journal d'hier qui explique bien, qui est assez frappant sur le fait que l'équipe de France aujourd'hui n'est pas à l'aise, aussi à l'aise dans la possession que dans la dépossession. C'est que donc depuis janvier, l'arbitrage du jeu au sol a changé. Il est plus favorable aux attaquants. Ça a comme conséquence notamment pour les Bleus, les Bleus ont moins de latitude pour gratter les ballons en défense, qui était un de leurs points forts. Le paradoxe de ça, c'est que alors que l'arbitrage du jeu au sol favorise l'attaque, aujourd'hui, l'équipe de France perd plus de ballons dans les rucks qu'elle n'en perdait en 2022. Elle en perd 3,1 par match contre 2,4 l'an dernier. Pour moi, ça montre un peu toute cette progression que doit avoir l'équipe de France dans la maîtrise de son jeu offensif. Voilà, Laurent Labitte a répété plusieurs fois, notre attaque n'a pas aidé notre défense, quelque chose qu'on a entendu plusieurs fois. Je pense qu'il veut dire que son attaque a perdu trop vite les ballons, qu'elle n'a pas assez, elle n'a pas été assez efficace, peut-être qu'elle n'a pas assez étiré les temps de possession. Donc c'est là-dessus qu'il va falloir être meilleur, tout en sachant que peut-être finalement, lors du quart de finale et lors des phases finales, ce sera que de la dépossession. Je ne sais pas, mais en tout cas, l'équipe de France, elle veut être hybride. Donc, si elle veut l'être, il faut qu'elle avance sur le chantier de la possession.
Alex, vous avez bossé avec Yannick tous les deux sur notamment la défense namibienne. Évidemment, c'est pas la meilleure défense de la planète et je pense que Sean Edwards aurait peut-être déjà démissionné ou alors il aurait eu beaucoup de boulot. C'est pas une référence mondiale. Là, normalement, il y a de la place.
Il y a de la place, ouais. On va donner quelques exemples. La Namibie, donc, les chiffres, c'est 18 essais encaissés, 4 plaquages sur 10 ratés dans cette Coupe du Monde, 35 franchissements subis. La chose qui m'a marqué, c'est qu'ils essaient de faire une rush défense et que la rush défense, c'est un exercice difficile. Il y a un côté équilibriste dans la rush défense. C'est-à-dire que si on se trompe dans le ciblage, ça ouvre des boulevards. Et là, c'est un peu le cas. C'est une action contre l'Italie. L'Italie vient de réceptionner un coup de pied de pression des Namibiens. Très, très vite, l'Italie se réorganise sur la largeur. Et là, j'ai entouré ces deux joueurs-là, qui sont le talonneur et le deuxième ligne namibien. Ils sont au milieu du terrain et un peu sur l'extérieur. Et ces deux joueurs-là, bon, déjà, rien que dans leur attitude, là, on voit qu'ils n'ont pas le même angle de course dans leur défense. Ils sont à plat, mais on voit qu'il y en a un qui court vers le ballon et l'autre qui court tout droit. Et qu'est-ce que ça va avoir comme conséquence? Je grossis cette capture, désolé pour les spectateurs. Qu'est-ce que ça a comme conséquence? Ça a que quand l'Italie écarte le ballon avec un bloc de trois avant au milieu du terrain, il y a un énorme intervalle qui s'ouvre entre le talonneur et le deuxième namibien qui s'appelle Uanivi. Et cet intervalle, il est créé par le fait qu'il n'y a pas de coordination en fait, dans la montée. Uanivi doit se rapprocher sans doute, quitte à laisser de l'espace à l'extérieur. Et la conséquence, c'est que le deuxième italien qui est au centre du bloc, il va faire une passe en profondeur vers Ioane. Et Ioane, il va s'engouffrer dans l'intervalle qui est complètement ouvert. Ça ne va pas faire essai au bout. Mais c'est une situation qu'on retrouve souvent quand on voit les Namibiens jouer. Je crois que j'ai une autre situation où on voit que la défense en difficulté, là, c'est contre les Blacks. Alors là, le premier problème, c'est qu'il y a un énorme problème de replacement. Partie gauche du ruck, là, namibienne, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 défenseurs pour 3 attaquants. Donc ça veut dire qu'il y a plein de défenseurs qui n'ont pas fait le tour. Et côté gauche, il y a 3 défenseurs pour 1, 2, 3, 4, j'en compte 6 attaquants. Là, il y en a peut-être même encore un autre dans le couloir. Et là, bon, je ne sais pas ce qu'en pensera Yannick. Je pense qu'il faut peut-être essayer de contrôler au lieu de monter. Ne pas aller se suicider, comme il disait lors de la première émission, sur un attaquant. Et le troisième défenseur, à nouveau Uanivi, il va faire aller se suicider sur un attaquant sans bloquer le ballon, malheureusement. Le ballon va passer et je crois que j'ai plus la suite de l'action en tête, mais les All Blacks vont réussir à avancer. En tout cas, il y a un 2 contre 0 dans le couloir. Donc voilà, c'est quelque chose dans la défense des Namibiens qui est exploitable pour l'équipe de France, à condition d'avoir les bons timings et les bons placements et les bonnes transmissions. Parce que malgré tout, ils montent, donc ça réduit le temps. Mais si on est bien placé, et si on est les justes timings de course et de passe, alors oui, il y a des choses à faire.
Yannick, qu'est-ce que tu en penses?
Il a très bien résumé. En fait, c'est une équipe généreuse qui est rude dans les collisions. Ils ont tous des racines sud-africaines, ces joueurs namibiens, et j'en connais certains. Défensivement, ils montent sur des rails. Ils défendent sur des hommes, sur les cibles, plutôt que sur le ballon, en fait. Donc, il faut se fixer sur les leurs. La première illustration d'Alex était très parlante par rapport à ça. Donc, ils défendent vraiment sur des cibles, sur des hommes, plutôt que sur le ballon. Et quand le ballon bouge, ils ont du mal à se sortir de la cible. D'ailleurs, ils ne se sortent pas de la cible. Ils vont au crash. Voilà, on pourrait dire que c'est une équipe assez naïve qui va mettre beaucoup d'énergie dans ses montées défensives, qui va chercher à réussir ses collisions. Je pense que l'équipe de France aura analysé ça, c'est une défense très serrée qui monte sur des rails, qui se soucie très peu du ballon. Et donc, on devrait voir des animations qui sont assez classiques de l'équipe de France en triangle avec des options proches et des options dans le dos. Alex les commentera après, je pense. On devrait voir Voilà, c'est vraiment l'occasion de rôder, de faire un entraînement à haute intensité sur nos systèmes offensifs. Parce que la Namibie est quand même assez naïve et va faire des grosses fautes de défense. Après, ils ont aussi des difficultés à circuler, c'est très clair. Donc, il y aura des options dans le sens, il y aura des options sur des inversions. Bon, c'est une équipe de seconde zone. Hein, je crois que leur leader, Dyzel, joue à Colomiers. Leur droitier, 35 ans, joue au Cheetahs. Bon, ce sont des joueurs de deuxième zone. La plupart jouent en deuxième division irlandaise aussi. Donc, ils vont offrir leur générosité dans ce match et ils vont faire plein d'erreurs individuellement et aussi dans leur système. Donc, avec cette première copie raturée qu'on a livrée face à l'Uruguay, on devrait avoir une bonne synthèse et un match qui va donner le sourire à tout le monde, je pense.
Justement, pour compléter, on en parlait un petit peu en intro, sur peut-être le match idéal pour améliorer, en tout cas, ou varier davantage ses lancements de jeu contre une équipe faible, n'ayons pas peur de le dire, mais peut-être valeureuse, hein, c'est pas péjoratif. Yannick, pourquoi c'est si important les lancements de jeu dans une équipe comme ça?
Parce qu'au rugby, il y a trois façons de marquer des essais. Dans le jeu de dépossession que maîtrise très bien l'équipe de France, donc il y a les contre-attaques et les turnovers. Les contre-attaques issues d'un mauvais jeu au pied, d'un jeu au pied forcé de l'adversaire, où là on attaque face à une défense désorganisée. Donc l'équipe de France excelle là-dessus pour marquer des essais sur des attaques éclairs qui durent souvent moins de 30 secondes. Il y a les turnovers qui par nature aussi provoque un rapport de force compliqué pour la défense puisqu'elle était en situation d'attaque et elle se retrouve en situation de défense. Et le troisième moyen, c'est les lancements de jeu où là, que ce soit sur touche et sur mêlée, on a bien isolé, on attaque souvent dans le cas de touche complète à ligne de trois quarts contre ligne de trois quarts. On peut provoquer des désordres par des animations bien léchées. Et là aussi, ça permet de marquer sur des fulgurances, et l'équipe de France l'a très bien fait depuis plusieurs années. Elle a toujours été très dominante sur ses lancements de jeu. Et si ils ne marquent pas les lancements de jeu, ils permettent de mettre le rouleau compresseur en route, c'est-à-dire avec des prises de ligne d'avantage, des courses limitées pour les avants, puisque lorsque votre attaque avance et que vous allez d'un ruck à un autre en vous projetant vers l'avant, ben, on amène notre masse physique est quand même importante avec, bon, on l'a dit, les retours de Danti et de Baye ou Antonio ou Movaca ou nos gros gabarits. On les amène vers l'avant, alors que lorsqu'on a un lancement de jeu défectueux et qui ne prend pas la ligne d'avantage, eh ben, ça force les avants à réaliser des courses de replacement dans son camp. Donc, c'est plus énergivore et on touche les ballons dans de moins bonnes conditions. Donc, en fait, le lancement, il permet ou de marquer très vite, ou de mettre en route le rouleau compresseur et de mettre la défense sur les talons alors que l'attaque sera sur les pointes de pied. Donc ça c'est vrai que c'est assez essentiel. Voilà.
Et Alex,
Et
pourquoi on est un peu moins efficace? Mais, pardon, Yannick, tu disais, j'ai pas entendu.
l'équipe de France nous a habitués à des choses très propres sur les lancements. Et c'était vraiment une des armes importantes de notre trousse à outils. Et là, c'est vrai que sur les premiers matchs, déjà, on a été un peu frustrés parce qu'on a eu très peu de lancements, honnêtement. En touche, il y a eu énormément de ballons portés, de touches gagnées mais mal maîtrisées. Contre la Nouvelle-Zélande, Antoine Dupont s'est souvent fait embêter derrière les mêlées par Aaron Smith. Ça faisait partie du plan défensif des Néo-Zélandais. Donc, on n'a pas eu grand-chose, honnêtement, à se mettre sous la dent. Mais on n'a eu que deux matchs. Donc un match contre la Nouvelle-Zélande où il y a eu peu de lancements propres, en tout cas dans la zone offensive, et un match contre l'Uruguay, bon, qui nous a un peu tous déçus, où on a fait énormément de ballons portés, on a tapé en touche sur pénalité, donc et on a voulu se réfugier dans une arme qui aurait dû être efficace pour nous et qui l'a pas été parce qu'on en a parlé au dernier salon tactique. Les Uruguayens ont fait les efforts qu'il fallait dans la défense des Molles. Donc c'est vrai qu'on attend de voir des lancements de calibre, mais pas que. On attend de voir une copie offensive qui correspond à ce que doit produire une équipe potentiellement championne du monde.
Et Alex, justement, tu as bossé dessus, tu vois, sur ce qu'ils ont produit depuis le début, ça donne quoi, ouais?
Au niveau, j'ai juste pris les 11 touches où il y a eu du jeu derrière, pas des touches où l'idée était de renvoyer le ballon vers l'adversaire. Sur les 11 touches, il y a eu 7 suivies d'un maul et certaines suivies d'un jeu direct à une passe, donc vers Moefana ou vers Gabin Villière. Et il y en a eu 4 avec le même lancement de jeu, on y reviendra. Et puis il y a eu 8 mêlées, il y en a eu 3 cafouillées, dont 2 effectivement, dont parlait Yannick avec. Aaron Smith qui met la pression à Antoine Dupont, mais aussi parce que le ballon est mal contrôlé en sortie de mêlée. Il sort un peu vite. Il sort de la mêlée et du coup, Dupont le ramasse et Aaron Smith lui met la pression tout de suite. Et il y a quand même eu 2 essais sur mêlée, ce qui est un peu rare d'ailleurs, parce que le meilleur lancement de jeu statistiquement, c'est la touche. C'est celui qui offre le plus de, qui lance le plus d'essais, on va dire, sur lequel démarre le plus d'essais. Là, c'est plutôt la mêlée. Donc, il y a eu les 2 essais contre l'Uruguay, un sur un lancement direct avec. Un jeu en triangle, comme disait tout à l'heure Yannick, avec Lucu, Astoy et Moefana. Et puis un deuxième qui a lancé le jeu pour permettre à Bielle-Piarrey de marquer. Celui-là, je vais pouvoir le montrer juste un peu parce que c'est peut-être la seule nouveauté dans les lancements de jeu, alors que cette équipe de France avait habitué à des trucs assez spectaculaires, sympas et très efficaces. Et avait annoncé d'ailleurs que contre les Blacks, on verrait peut-être ce genre de choses. Finalement, il n'y en a pas eu. Donc là, c'est le lancement de jeu de deuxième essai contre l'Uruguay. Il y a une mêlée, le jeu va de droite à gauche. Je pense qu'Astoy a servi Moefana va aller fixer la défense, s'approcher de la défense. Il a plusieurs options de jeu autour de lui. Il a soit la passe à gauche à Vincent, soit la passe dans le dos pour Astoy. Et puis à l'intérieur, là, sur une course un peu inhabituelle, sur un premier temps de jeu en tout cas, il y a Baptiste Couillou qui vient se présenter. Et Moefana va remettre le ballon à l'intérieur vers Couillou. Couillou va réussir à avancer un peu, va y avoir un ou deux temps de jeu de plus. Et puis dans le renversement, les Bleus vont aller marquer. Ça, c'est un peu le truc le plus neuf. Mathieu Jalibert a dit qu'on verrait peut-être de nouvelles choses contre la Namibie et l'Italie. En tout cas, il a dit qu'ils en avaient un peu envie de sortir de nouvelles choses. Donc on va voir ce que ça va donner. On sait que cette équipe de France, elle a les moyens de réussir des lancements super léchés. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Même Laurent Labitte l'a dit, il faut qu'on soit plus efficace sur nos lancements de jeu. Je vais vous montrer ce qu'on a le plus vu, on va dire, depuis le début de la Coupe du Monde. Je parlais de ces 4 lancements de jeu identiques sur touche. Donc, c'est un lancement de jeu identique, mais avec plusieurs sorties possibles. On l'a vu la première fois contre les Blacks, c'est ici. Donc, c'est une touche directe. Ballon à Mathieu Jalibert. Jalibert donne à Arthur Vincent, enfin au premier centre. Et Arthur Vincent a 2 options. Soit il fait une passe à hauteur à Grégory Aldrit, qui a une course inversée, on va dire. Soit il fait une passe en profondeur à Gaël Ficou. Qui est dans le dos de Grégory Aldrit. Là, ce qu'on voit, c'est que Arthur Vincent est un peu lisible, un peu loin de la défense, que Aldrit aussi n'est pas tout à fait à hauteur encore, que ça laisse du coup le temps à la défense de t'anticiper, et que Gaël Ficou n'est pas non plus très actif, on va dire, dans son appel. Là, c'est Aldrit qui va avoir le ballon. Ça va y avoir un défi pur et simple. L'autre option, c'est. Donc là, on retrouve la même situation contre l'Uruguay, exactement la même, sauf que c'est Boudehan à la place d'Aldrit. Et là, on voit que déjà, Boudehan est un peu plus près et que Moefana aussi appelle vraiment le ballon. Est plus proche lui aussi. C'est Moefana qui va avoir le ballon sur le coup. Et Moefana, il va se retrouver un peu dans la même situation avec 2 options de jeu, un troisième ligne qui vient à hauteur François Cros et un ailier qui vient en profondeur avec une course qui va vers l'extérieur. Gabin Villière. Il va faire la passe à Gabin Villière, Moefana. Mais en bout de course, déjà, on voit deux choses, c'est qu'il n'y a pas forcément de surnombre, même s'il y a un peu de décalage dans le couloir, il y a un peu de place dans le couloir, il n'y a pas forcément de surnombre, puisque on peut considérer que le joueur au bandeau défend sur Villière, celui à côté défend sur Jaminet et que le dernier défend sur Bielle-Biarrey. Et on voit aussi qu'il y a une mauvaise passe de Villière qui, dans le dos de Jaminet, qui tue le lancement de jeu, en fait, qui fait qu'il n'y aura pas d'avancée. Donc voilà, c'est question de timing, de précision des angles de course, sur le qu'on a vu sur la première vignette, Et là, de précision des passes, ben, c'est assez illustré, je trouve, par ces deux actions. C'est un peu pour ça que pour l'instant, les Bleus n'ont pas réussi à être vraiment efficaces. Et puis, il y a aussi le fait qu'ils n'ont pas sorti de choses surprenantes. Alors que leurs adversaires leur ont piqué parfois des lancements de jeu qu'ils faisaient super bien et ont réussi à marquer. Je pense à l'Australie avant la Coupe du Monde, ou même à l'Uruguay avec ce passage à vide là, du centre. C'est des choses que savaient très bien faire les Français. Pour l'instant, ils ne l'ont pas ressorti. Et ça fait partie des chantiers, je pense. Enfin, c'est même sûr, puisque Laurent Lhapitte l'a dit, que ça faisait partie des chantiers de la suite de la Coupe du Monde.
Justement, Yannick, question toute bête. Laurent Labit disait il y a quelques semaines, l'entraîneur de l'attaque, qu'ils n'avaient pas tout montré. Est-ce qu'on peut se dire qu'ils cachent encore des choses pour un quart de finale, qu'ils vont les mettre en place contre l'Italie, ou alors c'est un peu de bluff et de la com?
Écoute, moi je t'avais donné mon sentiment avant le match contre la Nouvelle-Zélande déjà. Hein. J'avais dit on fera ce qu'on sait très bien faire. D'ailleurs, moi je ne fais pas partie de ceux qui demandent un changement de cap de l'équipe de France. Et au contraire, je fais partie de ceux qui pensent qu'une équipe elle a besoin d'un cap, d'une vision, d'une identité. Aujourd'hui, notre 15 de France est construit sur une identité défensive, de dépossession, de puissance aussi au niveau de son paquet d'avant. De fulgurance et d'attaque éclair. C'est ce sur quoi on a bâti notre confiance, c'est ce sur quoi on a construit aussi notre remontée sur les premières places de l'échiquier mondial. Moi, je ne pense pas que ce soit opportun de vouloir modifier les choses pour céder à je ne sais quelle mode, puisque oui, les arbitres ont cherche à impacter le profil et les profils offensifs des équipes dans cette Coupe du Monde pour rendre le jeu plus spectaculaire. Donc potentiellement, on pourrait penser que, mais réellement, et Alex l'a bien souligné dernièrement, toutes les équipes qui gagnent depuis le début de la Coupe du Monde, ce sont celles qui tapent le plus et qui possèdent quasiment à 80% le moins le ballon. Hein, je ne dis pas de bêtises, Alex.
Oui,
Donc,
sur les grosses affiches.
voilà. Moi, je pense que là, à part l'Irlande et plus, de manière plus surprenante l'Afrique du Sud, les équipes qui gagnent sont celles qui tapent et donc la tendance se confirme. Moi, je fais partie de ceux qui pensent que la confiance, elle se construit sur un cap, sur une vision, sur une stabilité, sur des forces. Les forces de l'équipe de France, on les connaît. Je ne sais pas si on a non plus les profils de joueurs pour changer notre fusil d'épaule entre la possession et la dépossession. Donc, moi personnellement, Yannick Bru ne réclame rien en termes de. Il sera heureux si on est champion du monde. Je ne sais pas si c'est le moment de provoquer ce débat et cette confusion, parce que même, bon, j'ai lu ce qu'a montré Alex. Au niveau de la déclaration de Mathieu Jalibert, mais en fait, dans la déclaration, il y a un peu tout. On sait faire ça, mais on sait faire ça aussi, mais on pourrait faire ça. Bon, voilà. Les Springboks se posent moins de questions. Je crois que la confiance et les forces d'une équipe, voilà, elles se font sur. Sur un socle différent. Voilà, donc oui, l'équipe de France, elle doit mieux faire offensivement, surtout quand elle joue contre l'Uruguay et la Namibie ou l'Italie. Bon, après, est-ce qu'en quart de finale, face à l'Afrique du Sud ou à l'Irlande, elle a intérêt de se lancer dans un rugby nouveau ou de revenir vers ce qui a fait notre force et qui nous a fait être quasiment la meilleure nation du rugby mondial?
C'est vrai, en fait, c'est.
Parmi les forces, vas-y Alex, vas-y.
Non, mais juste pour dire que je trouve que c'est un débat à la fois intéressant, parce qu'on voit bien que l'équipe de France, elle cherche un peu le truc, même si elle est capable de. Enfin, même si elle est quand même très sur sa dépossession. Mais je trouve qu'il y a un truc intéressant à observer, et qui va être intéressant à observer sur la suite de la compétition, c'est ce bras de fer, en fait, en quelque sorte, entre les équipes qui veulent rester sur la dépossession. Ce sera peut-être le cas de l'équipe de France. C'est un peu le cas de l'Angleterre, par exemple, aussi. On va voir beaucoup le cas de l'Angleterre. Ceux qui veulent rester sur ça. Et ce bras de fer entre ces équipes-là et, on va dire, les arbitres. Parce que après, et puis après, Après, en plus, le truc, c'est qu'il y a différents types d'arbitres. Yannick en avait très bien parlé. Il y a ceux qui sont sur la technique et ceux qui sont sur l'esprit. Je trouve que ça va être intéressant à observer, à voir qui va avoir raison. Est-ce que ce sera possible pour les équipes qui restent sur la dépossession d'avoir raison contre une fédération internationale qui voudrait plus de jeux et des arbitres qui voudraient plus de jeux? Ou est-ce qu'il va falloir évoluer un tout petit peu? Enfin, voilà, ça va être marrant à voir. Voilà, on a un peu parlé, je ne vais pas raconter toute la discussion, mais on en a un peu parlé. Les All Blacks, par exemple, eux, ils veulent posséder, quoi. Ils veulent avoir le ballon et ils veulent un jeu. Ils appellent ça positif. Moi, je ne trouve pas que le jeu de dépossession soit négatif, mais je l'ai même trouvé intéressant pendant tout le mandat Galtier. Mais ils veulent un jeu avec où ils ont davantage le ballon. C'est un peu le cas à toutes les Coupes du Monde, mais là, en plus, il y a cette problématique, enfin, ce truc de la Fédération internationale qui arrive au milieu, qui dit, nous, on voudrait bien que ce soit plutôt ça qui gagne, plutôt ce jeu-là, le jeu de possession.
Et messieurs, il y a aussi sur. Vas-y, Yannick, vas-y.
Ah, et on sait aussi que bon, y a toujours un jeu de lobbying important au niveau de l'arbitrage international. Il y a des commissions, il y a des sous-commissions, et on sait que l'hémisphère sud et les Néo-Zélandais sont très bien représentés dans ces cercles de lobbying depuis toujours, depuis toujours. Oui, et puis les Néo-Zélandais, ils ont une mêlée qui est un petit peu bancale dernièrement. Ils savent que sur la longueur du jeu au pied, ils ne pourront pas rivaliser avec Antoine Dupont, Mathieu Jalibert ou Thomas Ramos ou Melvin Djaminet, puisqu'ils n'ont pas ça. Donc ils ne vont pas essayer d'orienter le jeu vers quelque chose qu'ils ne maîtrisent pas. Voilà, et je pense qu'en termes de puissance, de efficacité défensive, efficacité sur le jeu au pied, on a l'équipe qui s'apparente le plus au Springbok et qui peut avoir un vrai avantage concurrentiel dans ces secteurs-là sur tous les adversaires. Voilà, donc moi j'entends l'évolution demandée par les arbitres, souhaitée. Mais la réalité du terrain, c'est que les règles du rugby, elles sont ce qu'elles sont. Et que oui, sur le gratteur, on peut influer un peu. Est-ce que c'est le moment? Voilà. Est-ce que c'est le moment pour les équipes d'essayer de modifier leur ADN en réponse à ça? C'est un bon
J'ai une
débat.
question, messieurs. J'ai une question aussi sur le jeu de cette équipe de France demain contre la Namibie. Il y a un retour important aussi au milieu du terrain, c'est Jonathan Danty. Je sais qu'Yannick, tu ne vas pas me dire qu'il est meilleur ou moins bon que Yoram Moefana, qui est un joueur de l'UBB, ce n'est pas ça que je te demande. Mais qu'est-ce qu'il peut apporter, Jonathan Danty? Et est-ce que ça peut être un élément rassurant pour cette équipe de France, puisqu'il a l'habitude de jouer avec Gaël Ficou?
Ben, rassurant, il l'est, puisque Joe Danty, il a vraiment changé de statut, que ce soit avec La Rochelle ou avec l'équipe de France. Déjà parce qu'il récupère énormément de ballons au sol. Et il est souvent des ballons clés dans des moments importants du match. Il a arraché je ne sais combien de ballons aux attaques adverses quand le frisson pouvait passer dans notre dos. Donc il a été décisif là-dessus. Il est aussi décisif dans sa puissance offensive, ben c'est notre tu sauvas aujourd'hui. Il a pris une dimension au sein de cette équipe qui est vraiment particulière. Donc il va amener de la puissance en attaque et évidemment dans le jeu au sol. En l'absence de Marchand et d'Aldrit sur ce match, Jonathan Danty va être essentiel sur la récupération du ballon. Parce qu'il ne faut pas voir la récupération comme une fin en soi. La récupération, c'est un moyen d'attaquer dans des conditions favorables. Donc, en faisant ça, c'est peut-être notre meilleur attaquant aussi. Donc, Joe Danty, aujourd'hui, il a un rôle essentiel. Il est plus âgé que Yoram. Il a plus d'expérience. Il a vécu des galères en équipe de France. Il a fait son chemin. Donc, il a un rôle très important.
Juste pour finir,
Et
parce que c'est on
Alex,
voulait l'aborder sur peut-être les lancements de
justement,
jeu. Ouais.
justement Alex,
Vas-y.
je te coupe parce que j'ai décidé de te couper ce soir, c'est fini.
T'as raison.
Tu parlais des stats sur le jeu au sol, sur les grattages de 2023 par rapport à 2022, mais depuis le début de la Coupe du Monde, par exemple, Jonathan Danty n'est pas là, Julien Marchand n'est pas là, et le retour de Danty, ça change quelque chose là-dessus aussi.
Oui, oui, c'est sûr, mais même quand Danty était là, on était moins efficace dans les grattages, parce qu'aujourd'hui, c'est plus difficile. Voilà. Je crois que j'avais sorti la stat, c'était en 2022, un grattage tous les 19 rocs, en 2023, un tous les 29 rocs. C'est plus dur de gratter, c'est comme ça. Bon, mais n'empêche que Danty arrive à tirer son épingle du jeu. Le match de préparation contre les Fidji, il gratte 3 ballons, ça fait 6 points. Et il coupe une action fidjienne au moment où on est simplement à plus 7 en début de deuxième mi-temps. Il coupe une action fidjienne, il met les mains sur le ballon, c'est terminé. À partir de là, les Fidji n'ont plus aucune occasion de revenir et c'est la France qui prend le large. Et Danty peut être intéressant aussi sur les lancements de jeu pour clore sur ce thème-là, parce qu'il a cette puissance brute. Rappelez-vous du match contre l'Australie. Avec lui, il n'y a pas besoin d'inventer des choses presque. En fait, il est tellement puissant dans le défi frontal qu'ils font souvent ça. D'ailleurs, ils vont le chercher très directement et lui, il met la marche avant. Ça fait avancer 2 mètres, 3 mètres, 4 mètres plus parfois. Et tout de suite, ben, cette marche avant dont parlait Yannick tout à l'heure, qui permet aux avants d'arriver, lancer. Voilà, c'est hyper précieux ça. Et puis, au-delà de ça, quand on a un joueur comme ça, on peut aussi tourner autour, c'est-à-dire l'utiliser comme leurre ou l'utiliser comme passeur à un moment pour qu'il attire là, des défenseurs par ses courses, et ça, parce que les défenseurs s'arrêtent sur un joueur puissant comme lui et ça libère des espaces pour d'autres. Donc peut-être qu'il va participer, Jonathan Danty, au fait que les lancements de jeu français iront mieux.
Interview de Jonathan Danty dans l'équipe demain, petite parenthèse.
Voilà. C'est toi qui l'as faite?
Et justement parce que, oui, exactement, je l'ai fait en fin de saison dernière parce qu'il m'expliquait comment il a fait évoluer son jeu. Ouais, autopromo, ça devient n'importe quoi, c'est ce qu'on appelle la melonite. Parce qu'il a fait évoluer son jeu, parce qu'il était vu comme un bulldozer uniquement, et il a essayé d'étoffer, d'enrichir son jeu pour plus seulement être vu comme quelqu'un qui va défoncer tout le monde pendant 80 minutes. Et c'est vrai que ça se ressent un peu dans son jeu aussi.
Un peu, mais c'est quand même sa dominante. Elle reste la domination physique. Et voilà. En plus, l'équipe de France lui demande ça. Hein. Je crois que j'ai vu son nombre de passes pendant le tournoi tout à l'heure en faisant des calculs pour le thème à venir sur Cyril Bailly. Je crois qu'il a fait 3 passes pendant le tournoi, Jonathan Danty. Donc, c'est pas beaucoup.
Ouais.
Mais par contre, on voit avec La Rochelle et parfois avec l'équipe de France qu'il arrive à bien jouer des situations de déséquilibre ou. Mais l'équipe de France lui demande surtout de porter le ballon et d'avancer.
L'autre retour important, on l'a dit dans le sommaire, c'est vous avez compris la transition, c'est quand même finement joué. C'est Cyril Bailly, le gaucher du Stade Toulousain, qui est peut-être plus qu'un, ouais, c'est peut-être encore plus qu'un pilier, qu'un simple pilier, parce qu'il court, il fait des passes, il est précieux dans le jeu. Yannick, c'est vraiment un joueur super complet, non?
Oui, Cyril. On parlera de sa puissance à mêlée parce que d'abord il s'est construit sur des rings en acier et il est aussi hyper dynamique. On a souvent dit qu'il nous rappelait Christian Califano parce que c'est un gaucher qui prend une part très importante dans le jeu offensif. Il est souvent le premier receveur d'Antoine Dupont. Il a une façon très caractéristique de rentrer dans ses collisions qui lui libère le haut du corps. Il joue souvent debout après contact. Il gagne quasiment systématiquement la ligne d'avantage. Il touche beaucoup de ballons. Il fait 3 passes par match aussi. Donc, en moyenne, quand il joue, Cyril Bailly.
Je vais faire défiler, pendant que tu parles, je vais faire défiler les petits,
ouais.
Les petites infographies. Donc,
voilà, on a travaillé. Ouais, on a travaillé sur Cyril. Bon, mais voilà, nombre de courses, c'est 11,5, donc quasiment 12 courses par match.
C'est le tournoi 2023. C'est le deuxième avant au nombre de courses effectuées avec le ballon.
Voilà.
Devant, où ils vont.
Et sur nos recherches aussi, sur 80 minutes, sur ses 8 derniers matchs, il fait 33 mètres avec le ballon par match. Donc ce qui rejoint à peu près tes données, hein, c'est-à-dire qu'il porte le ballon 2-3 mètres par percussion multiplié par 10. On est aux 30 mètres, mais c'est beaucoup pour un pilier. Donc c'est un élément essentiel de la puissance et de la manipulation du ballon du 15 de France. Alors peut-être
si on
demain,
voit le nombre de passes,
ouais, passes par match sur le tournoi, 4 passes par match, donc c'est plus que Joe Danty, par exemple. Donc,
Oui.
bon, ça signifie des choses.
Et on voit aussi, j'ai mis volontairement Reda Wardi, qui est son concurrent et son remplaçant, on va dire, pour montrer que Baye a un profil particulier qui fait qu'on lui demande de faire des choses particulières dans le jeu de l'équipe de France. On va y revenir tout à l'heure. Mais il a un remplacement que n'a pas, par exemple, Reda Wardi. Reda Wardi vient moins souvent se proposer parce qu'ils n'ont pas les mêmes qualités. Là, on voit le nombre de passes au contact sur l'ensemble du tournoi. Il est à 3 passes au contact. Ça le fait quatrième joueur français sur ce total-là. Et il est dans le top 25 du tournoi sur le nombre de passes au contact. Il a une dextérité, un sens de la passe au contact assez remarquable.
Et Alex, il est pilier.
Il
Donc
est pilier.
ça veut dire que c'est le dernier à se relever. Donc je veux dire, c'est pas un receveur de choix. Je crois aussi ce qu'il faut parler de Reda Wardi, il y a quelque chose qu'il faut pas occulter, c'est sa complicité avec Antoine Dupont.
Oui.
Il y a sa complicité avec son talonneur et ses deux talonneurs toulousains, et peut-être Abel Le Droitier quand c'est Dorian Aldeguerri qui joue. Mais sa complicité avec Antoine Dupont, elle est totale. Et il serait intéressant de voir quel a été son passeur sur les offloads qu'il a fait. Et je suis quasiment certain que 80% des cas, celui qui lui a passé le ballon, c'est Antoine Dupont. Parce
Et
ils se connaissent sur les courses, ils se connaissent sur les timings. Et
ça se
Antoine
ressent aussi
a.
beaucoup avec Julien Marchand.
Voilà. Donc il y a aussi une ossature. Pour retrouver une qualité offensive, il faut qu'on retrouve des complicités. Et depuis longtemps, l'équipe de France a aussi bâti des complicités sur la moitié des joueurs du Stade toulousain.
Mais justement, messieurs, je voudrais trouver une éclat
Encore un peu le.
d'Antoine Dupont cette semaine. Antoine Dupont qui disait, Cyril a ce côté relayeur dans le jeu d'attaque qui nous permet de mettre du rythme. Et c'est vrai que c'est un profil différent encore de Reda Wardi et de Jean-Baptiste Gros, sans dénigrer les qualités de deux, mais il apporte quelque chose de manière
Mais c'est ce que
supplémentaire.
disait. J'ai vu quand Antoine Dupont disait ça, il disait Wardi et Gros, ils ont été très bons dans leur rôle.
C'est ça.
Mais Cyril Bay, il est important pour nous parce que c'est un relais dans le jeu. Et là, je vais vous montrer une action qui est hyper parlante, je trouve. On est contre l'Italie, premier match du tournoi. Il vient d'avoir une touche et un lancement de jeu avec je crois que c'est Grégory Aldrit, là, qui est dans le cercle rouge, qui est allé au défi. Et dans le replacement, on voit Cyril Bay qui ne va pas au ruck, ça c'est prévu. Il va pas au ruck, il va faire le tour et il va se positionner en troisième joueur du bloc. Et c'est lui qu'Antoine Dupont va servir. Donc tout ça c'est pareil, c'est prévu. Il reçoit le ballon, il va faire une passe en pivot à Romain de Tamac. L'action va se poursuivre, il va y avoir un temps de jeu. Et après ce temps de jeu, le premier joueur qui arrive à hauteur dans le ruck suivant pour prendre le ballon à nouveau, c'est Cyril Bay. Il va être servi par Antoine Dupont. Aller au défi, ce n'est pas forcément le joueur qui avance le plus au contact. Il n'a pas forcément une puissance à la Antonio, par exemple, ou à la Aldrit, une puissance un peu, comment dire, électrique. Mais par contre, déjà, un, il recule quasiment jamais. Et puis là, il arrive à peser, à gagner des petits mètres. On va voir comment après. Et enchaînement, donc il crée un ruck, Cyril Bay. Ce ruck-là est suivi d'un autre ruck. Et quel est le joueur qui intervient en premier attaquant dans le renversement sur le ruck suivant? C'est à nouveau Cyril Bay. Et là, il fait un geste différent. C'est là où on voit un peu sa panoplie. Il est un peu, il est plaqué, bien plaqué. Et il trouve le moyen de libérer ses bras. Il fait une passe au contact vers Romain Tamac. Donc je crois que c'est en 20 secondes, il touche 3 fois le ballon, alors qu'il y a eu 3 fois en premier attaquant, alors qu'il y a eu 4 ou 5 rucks, il faudrait refaire le total. Donc ça dit bien quel rôle il a dans cette équipe de France. Parfois, il a un côté garde-triage, même si il a quand même beaucoup de défis physiques dans son jeu, mais il a c'est un relais important, comme disait Antoine Dupont, dans le jeu de l'équipe de France.
Bon, il faut tout simplement dire qu'il est un peu plus doué que les autres offensivement. Il a de très bonnes mains. C'est pour ça qu'il nous rappelle à tous Christian Califano. Et il aime ça. Il est vraiment porté sur le jeu d'attaque. Cyril Bay, c'est un joueur de mêlée d'abord. Et après, c'est vraiment un joueur offensif. Alors que peut-être Les autres profils qu'on a à l'équipe de France sont plus des travailleurs de l'ombre et des joueurs et les autres piliers, plus investis dans des tâches défensives. Ils font le job, mais le pilier doué, c'est Cyril Bailly.
Et en mêlée,
Un autre exemple, tu
performant,
veux que
ouais.
je t'en dise une main? Juste un autre exemple, après on passera à la mêlée, mais je trouvais que c'est intéressant. Bon, là, la situation est un peu confuse là, parce que l'image n'est pas très nette, mais grosso modo, l'Écosse vient de taper sur un coup de pied haut sur Thomas Ramos, là, qui est au milieu de ma souris. Toute l'équipe, c'est en train de, l'équipe de France est en train de se replacer. Et Cyril Bailly, il a une course là. En fait, il directement, lui, il ne regarde pas, enfin, il n'est pas concerné par la question de la possession du ballon, enfin, de la conservation du ballon. Il part tout de suite se positionner quasiment en position de centre. On va voir sur l'image suivante qu'effectivement, une fois que le ruck est fait, lui, il se retrouve dans une position de centre. En fait, il crée une cellule. Enfin, c'est pas une cellule parce qu'ils sont quand même avec François Cros, mais il se propose en fait comme joueur. Potentiel pour être servi dans un deuxième temps par Romain Tamac. Et il va garder cette position un certain temps dans l'action jusqu'à être servi ici par Thomas Ramos, toujours dans cette position de centre. Donc voilà, c'est. J'aimerais bien savoir, peut-être Yannick il a une idée de ça, qu'est-ce qu'on dit à un joueur comme ça, sachant que c'est un profil particulier dans un poste où il y a quand même beaucoup de tâches à faire. Qu'est-ce qu'on lui dit? On lui dit, toi, tu vas te replacer là-bas, tu t'occupes pas de ça. Et qu'est-ce qu'on dit à son remplaçant aussi? Parce que Wardy ou Gros ne sont pas les mêmes. Donc, qu'est-ce qu'on leur dit? Toi, quand tu rentres, ben, tu
Non,
fais faire
non.
les tâches obscures et c'est d'autres qui vont s'occuper d'aller jouer les ballons.
Non, ils ont le plan de jeu, le plan de jeu est le même, hein, quel que soit les joueurs sur le terrain, à mon sens. Il n'y a pas des demandes particulières pour Cyril Bailly. Si tu peux remettre ta capture d'écran sur la réception de Thomas Ramos, s'il te plaît, parce que ça sera plus facile pour expliquer à ceux qui nous écoutent et qui ne sont pas encore couchés. Sur son repli, ouais, voilà, maintenant. Voilà, si tu veux, le terrain, on voit la ligne des 15 mètres vers la touche. Quand on reçoit un jeu au pied, en fonction des plans de jeu, dès que le premier rug va intervenir, chacun a des zones de fonctionnement. Dans cette bande des 15 mètres, ça va être au centre et aux troisième lignes, certainement, d'aller participer à la conservation du ballon. Alors que le spin de devant, les joueurs puissants qui travaillent souvent entre les 15 mètres et les 15 mètres, donc sur le milieu du terrain, ils vont vite retrouver leur rôle et leur fonctionnement dans les cellules de jeu. C'est comme ça que la plupart des équipes fonctionnent, parce que quand une équipe travaille aussi bien sur la dépossession que l'équipe de France, ça veut dire que tous les joueurs réfléchissent avec un coup d'avance. Quand on reçoit un jeu au pied, on sait exactement quels sont ceux qui vont participer à la conservation, quels sont ceux qui vont être en place pour l'utilisation dans les cellules de jeu, pour que le fonctionnement offensif se fasse. Donc je pense que Cyril, là, sur les actions que tu as montrées, il prend le milieu du terrain parce que c'est sa zone de fonctionnement. Mais par contre, dans les cellules de jeu, ou dans sa façon, puisqu'on sait que quand l'équipe de France rentre dans les 22 mètres adverses, il y a souvent ce jeu en black que Alex a brillamment expliqué dernièrement, ben là, ça devient un receveur prioritaire pour Antoine Dupont, parce que je pense que ce sont les automatismes du Stade Toulousain qui se trouvent. Et je ne pense pas que le staff de l'équipe de France dit, Cyril, toi tu viens pour toucher le ballon, les autres vous venez pour nettoyer. C'est tout simplement inconsciemment des automatismes qui se créent, et ce qu'il fait au Stade Toulousain, il le fait à l'équipe de France avec Antoine Dupont. Et c'est pour ça que l'équipe de France gagne du temps en sélectionnant des joueurs qui ont des complicités par ailleurs.
On va
Et
peut-être
monsieur,
dire un
il
mot,
parle
Yannick,
aussi
on en a un peu parlé tout à l'heure.
la posture, ouais.
Sa
La
posture
posture en
au
mêlée,
moment
ouais.
des impacts.
Mais ça intéresse
Alors,
personne, ça.
d'abord au moment des impacts, après,
Ah ben on l'a gardé pour la fin, Yannick, comme ça on s'est dit que les autres allaient
Alors.
jouer, tu vois, c'est pour les plus
Pour
assidus.
les... Ouais.
Cette photo, je trouve qu'elle est. Yannick, je te.
Ouais, c'est tout à fait Cyril Bailly. Donc, il est très costaud du haut du corps. Bah, Cyril Bailly, c'est 1,82 m pour 113, 114. Ça dépend s'il y a la TVA qui s'est appliquée. Là, comme il a été blessé, peut-être qu'il y aura un peu de TVA parce que je connais un peu Cyril. Ça va peut-être à 115. Mais il est très dense du haut du corps. Et souvent, il vient attaquer sa percussion avec le ballon devant, protégé quasiment à deux mains, sur l'image qui est très bonne là, et il fait rebondir ses adversaires. Ses jambes sont vachement en arrière, donc c'est difficile d'aller lui chercher les jambes. La première zone de contact qu'on a, c'est le ballon et ses pectoraux qui sont denses. Donc, il fait souvent subir le premier mec, il fait une rotation sur lui-même, il fait des demi-tours sur lui-même, il cherche des soutiens, il cherche à faire vivre le ballon. C'est très difficile d'aller attaquer les jambes à Cyril Baye parce que le joueur qui est baissé face à lui, s'il plonge pour aller chercher les chevilles à Cyril Baye, il va s'affaler par terre et il ne va rien toucher parce que les pieds de Cyril sont très loin en arrière. Ouais, c'est dur de le plaquer. On est obligé d'intervenir sur le ballon et comme il est très costaud du haut du corps, il assoit souvent, comme on dit dans notre jargon rugbystique, il assoit souvent le premier défenseur.
Ce qui est drôle, c'est qu'il ne vient pas toujours avec de la vitesse d'ailleurs.
Non. Il rebondit un peu comme une auto-tamponneuse, bam, il tape à droite, à gauche. Et l'image que tu avais prise de garde triage, bon, ça fait penser à Albert Cigagna. Malheureusement, je ne sais pas s'il y a des gens qui nous écoutent sur Twitch et qui connaissent Albert Cigagna. Je ne pense pas qu'il y en ait beaucoup. Mais c'était tout à fait ça, une espèce de d'auto-tamponneuse, aussi d'élastique, qui vient taper, se retourner et faire jouer autour de lui.
Ok. On est bien armé pour demain. Ouais.
On va s'intéresser au dernier aspect, celui qui intéresse personne, mais qui quand même intéresse. On va se coucher moins con après avoir écouté Yannick parler de la mêlée, parce que c'est vraiment un domaine à la fois obscur et passionnant quand on s'y penche avec un expert comme Yannick.
Ouais.
Donc là, Yannick, je te laisse.
Fais-toi plaisir.
C'est juste pour montrer la façon dont... Bon, et sur Twitch, ça serait intéressant de travailler sur les datas, le nombre de gens qui utilisent Twitch et qui s'intéressent à la mêlée. Donc là aussi, il n'y a peut-être pas des pourcentages importants, mais on va quand même le faire. Là, on voit l'imbrication des têtes dans une première ligne. Et ce n'est pas anodin, puisque le 3 en bleu, c'est notre ami Kotze, qui sera le droitier de 35 ans, qui va jouer face à Cyril Baye. Donc, on appelle le 3, on l'appelle « tight head » en anglais, ça veut dire « tête prise », parce que sa tête, elle est prise entre la tête du 1 blanc et du 2 blanc. À la différence du « lose head », tête perdue, qui est le pilier gauche, donc le 1 blanc, par exemple, comme vous voyez, sa tête est à l'extérieur de la tête du 3, et elle est perdue, il peut se perdre, justement, en sortant de la mêlée. Voilà. Donc, le droitier Kotze, il y a une image sur lui, c'est 1m90, 120 kg, c'est un vieux guerrier de la mêlée. Il se met souvent en travers comme ça. Et il y a une autre capture d'écran, je ne sais pas si tu l'as gardé, Alex. Ouais, c'est le même, c'est notre ami, c'est toujours pareil, on voit sa posture un peu caractéristique, il cherche à s'engouffrer entre le talonneur et le pilier gauche, le numéro 1 irlandais. Il va être en difficulté face à Cyril Baye parce qu'il est grand, il fait 1m90, Cyril il fait 1m80, il est plus petit, plus dense, et on va voir Cyril sur une capture d'écran, sans trahir. Voilà, contre Cyril, la clé, c'est quelqu'un qui est pas très grand, 1m80, qui a le centre de gravité proche du sol et qui est très fort. Et on voit que pour s'opposer à Cyril, il faut lui opposer des forces de face. Et là, le pilier anglais, c'était Sinclair, avait bien travaillé son affaire. On voit qu'il est très près du sol. Il reste droit sur Cyril. Il ne cherche pas à aller prendre la facilité, se mettre en travers entre Julien Marchand et Cyril. Parce que quand on fait ça contre Cyril Baye, ce qu'a fait l'Écossais et ce que fait le Namibien sur la capture d'écran suivante, ben la sanction, c'est souvent ça. Ça, j'ai pris une mêlée du dernier Six Nations où il y a eu les deux rouges entre la France et l'Écosse. Ben le droitier écossais Fagerson, écossais, il a pris la facilité, vous voyez, il a choisi sur la flèche en pointillé verte se mettre en travers et de venir faire du mal à Julien Marchand. Cyril Baye, il ne faut pas c'est un jeu à double tranchant, ça, parce que Cyril Bay va venir le soulever sur son épaule droite et il va se relever. Sa tête va faire bouchon de champagne de la mêlée et une pénalité va être récupérée par l'équipe de France. Donc, c'est vrai que ce droitier namibien, on pourrait le voir faire bouchon de champagne quelquefois demain face à la puissance de Cyril Bay, parce que ce n'est pas un pilier qui reste sur son vis-à-vis, c'est un pilier qui cherche à rentrer très vite à l'intérieur de la mêlée. Voilà.
Yannick, toi qui as fait des mêlées, là, qui en as fait beaucoup, beaucoup dans ta carrière, est-ce que tu peux nous dire quel est le type de bruit que peut faire le 3 écossais à cet instant précis là?
Le type de bruit
qu'il peut faire, ouais. Soit sa voix, soit c'est son
coup. Ouais, non, mais là, il est en apnée. Il est en apnée parce que sur ces efforts de poussée, on est en apnée pendant 10-12 secondes. Il cherche à relever très fort avec son épaule. Il cherche à faire mal à Julien Marchand et à lui. Donc, il applique sa tête sur les côtes de Julien Marchand. Donc, ça peut être un petit bruit de cagette qui casse si c'est une côte qui se détériore. Par contre, ça peut être dangereux pour lui aussi. Il peut se faire casser des côtes lui aussi sous le pec droit, ou en tout cas se faire très mal au cervical en faisant ça.
Bon, bah, en tout cas, j'ai encore appris plein de choses sur la mêlée et ça me conforte dans l'idée que je ne ferai jamais de mêlée. Merci en tout cas à tous les deux. Je préfère regarder ça tranquillement au stade.
On a perdu quelques auditeurs sur Twitch.
Bon, on fera la minute mêlée si tu veux à chaque fin d'émission, si tu veux, pour que tu nous expliques. Non, c'était hyper intéressant, merci.
Bon, on pourra regarder vendredi soir. On pourra regarder ce qui s'est passé. Ouais. Si Côte 2 effectivement a fini avec une côtelette en travers.
Je pense qu'il va se relever quelques fois dans le match. Après, il faut aussi préciser que sur ce match-là, Cyril, ça fait un mois qu'il fait plus rien ou qu'il se prépare, mais rien ne remplace le mix de travail, l'effort de poussée et de combat qu'est la mêlée fermée, 12 secondes en apnée, c'est du travail de sumo, avec des enchaînements de courses derrière. Donc, je ne pense pas qu'on verra le vrai Cyril Bay demain face à la Namibie. Je pense qu'il faudra lui aussi lui laisser un peu de temps. Et le but, c'est qu'on ait le vrai Cyril Bay pour le quart de finale sur un match éliminatoire. Et c'est pour ça que c'est important qu'il joue ce match.
Ouais, c'est un peu de répétition pour tout le monde. Lui, ça va permettre de monter en puissance. On disait les quatre sont de retour. Après, ce sera une victoire contre l'Italie. Après, l'équipe de France va écraser l'Afrique du Sud. Bon, on a le temps d'en reparler. Hein. Déjà, on se retrouve dans deux jours après une démonstration, on espère, contre la Namibie.
Contre l'Afrique du Sud, le duel Cyril Bay France Malherbe, il va être sympa. Mmh.
Ouais.
Mais ça sera pas ça. Ouais. Mais ça sera pas ça.
C'est là qu'on y reviendra.
Ouais, c'est ça, exactement. Merci beaucoup. On se retrouve vendredi. Alex, tu finis ton sac et tu débarques demain à Marseille. Yannick, tu regardes le match, tu fais une capture, tu bosses avec Alex. Et on se reparle vendredi après ce match et cette troisième victoire. En tout cas, ce troisième match, c'est sûr.
Ok. Salut.
Salut à tous.
Bye bye.
Merci Yannick.
Ciao, ciao.
Ciao.